You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Le plaisir de recevoir le professeur Frédéric Hollande, qui est chercheur du CNRS et expatrié à l'Université de Melbourne. Bonjour à vous.
Bonjour Jean-Noël Lucas, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui.
Et d'après ce que je comprends, vous êtes le co-directeur du premier laboratoire conjoint de recherche de l'INSERM avec l'Australie. Mais peut-être avant d'entrer dans tous les détails, je sais aussi que vous travaillez avec le Centre de recherche en cancérologie de Lyon. Racontez-nous votre parcours, présentez-vous, dites-nous qui vous êtes et depuis combien de temps vous êtes en Australie.
Je suis un pur produit en fait de la recherche publique française. Donc j'ai été éduqué à l'université de Montpellier, au niveau duquel j'ai fait toutes mes études en physiologie, en biologie cellulaire, pendant quelques années avant de partir comme tout bon chercheur français après son doctorat en stage postdoctoral. Je ne dirai pas exactement en quelle année pour ne pas dévoiler mon âge. Mais la partie plus importante de tout cela, c'est que j'ai fait ce stage postdoctoral en fait au Ludwig Institute for Cancer Research à Melbourne. Et donc en fait, c'est le premier contact que j'ai eu avec la recherche biomédicale dans cette ville. Donc je peux quand même dire que c'était dans les années 90, en fin des années 90. Et donc c'est la première fois que j'ai pu m'intégrer au tissu des chercheurs de Melbourne et réaliser à quel point en fait la recherche australienne en sciences biomédicales était vraiment de très haut niveau. Et c'est donc le début d'une longue histoire, puisque un peu plus de 20 ans plus tard, je suis de nouveau de retour ici. Donc entre-temps, en fait, j'ai été recruté au CNRS. Et donc j'ai été plus récemment en fait directeur de recherche au CNRS et directeur d'un département de recherche en oncologie, c'est-à-dire en cancérologie. Recherche à l'Institut de génomique fonctionnelle de Montpellier, que j'ai quitté finalement pour venir en détachement à l'Université de Melbourne en fin d'année 2012 en fait. Donc voilà, je suis en détachement, je suis encore un petit peu relié quelque part au CNRS et un petit peu quelque part aussi un ambassadeur du CNRS en Australie, mais je suis maintenant donc vraiment employé par l'Université de Melbourne au département de ce qu'on appelle le Clinical Pathology, donc qui est un département qui est focalisé sur l'étude en fait des causes, des mécanismes des différentes maladies, en particulier du cancer en ce qui me concerne. Donc situé dans un bâtiment que vous aurez peut-être vu si vous avez l'occasion d'aller vers Parkville, qui est le Victorian Comprehensive Cancer Center, un fantastique immeuble donc, qui partage hôpital et recherche, voilà, à peu près.
Et parlez donc des recherches que vous avez effectuées depuis ces dernières années ici en Australie.
Tout à fait. Donc en fait, je vais rebondir un petit peu sur ce qu'on vient de dire, et puisque les projets de recherche qu'on a développés sont vraiment bénéficient de ce Victorian Comprehensive Cancer Center et du fait qu'au centre de ce type de structure, on a une collaboration très très intense en fait et une intégration forte des recherches à la fois fondamentales d'un côté et appliquées de l'autre côté, des chercheurs entre guillemets classiques comme moi, mais aussi des chercheurs cliniciens qui sont vraiment présents dans le bâtiment et qui nous permettent vraiment d'avoir tout de suite une vision très très claire des besoins en termes de nécessité médicale pour soigner nos patients atteints du cancer, et d'autre part qui nous permettent aussi d'avoir une vision assez claire rapidement de la manière d'appliquer nos découvertes, toujours dans ce but qui est bien évidemment d'améliorer la vie et puis d'améliorer la survie des patients atteints du cancer. Donc dans ce contexte-là, notre recherche plus particulièrement a pour but de soigner des patients qui ont un type de cancer qu'on appelle le cancer colorectal, donc le cancer de l'intestin, du côlon, du rectum, un cancer malheureusement encore trop fréquent qui est deuxième, troisième cause à peu près de mort dans le monde et également en Australie, et qui en fait est un cancer qui se caractérise par le développement d'une petite chose malheureusement qu'on appelle les métastases, c'est-à-dire des cellules cancéreuses qui se disséminent un petit peu partout dans l'organisme. Ce sont ces cellules, c'est important de le comprendre, je pense, qui tuent finalement nos patients, qui sont fatales à nos patients. Ce ne sont pas les tumeurs de l'intestin à l'origine qui, elles, sont souvent enlevées par chirurgie. Donc en fait, nous sommes très intéressés dans mon groupe de recherche par ces métastases, donc ces disséminations du cancer colorectal, en particulier les disséminations dans le foie, qui sont les plus fréquentes. On essaye de comprendre vraiment comment elles fonctionnent, et en particulier notre projet de recherche, et je ne vais pas trop entrer dans des détails trop complexes, bien sûr, mais sont intéressés à ce qu'on appelle l'hétérogénéité des tumeurs, c'est-à-dire le fait que toutes les cellules cancéreuses ne sont pas les mêmes et qu'elles répondent de façon très très différente au traitement. Donc du coup, nous, on essaye vraiment de comprendre à l'intérieur de cette tumeur quelles sont les cellules qui sont les plus dangereuses. Si on peut prendre une analogie cinématographique, par exemple, on pourrait penser aux Stormtroopers, à l'armée des clones de la Guerre des Étoiles. Ils sont tous habillés pareil, ils sont tous en blanc, donc on ne sait pas les reconnaître, on n'a aucun moyen de les reconnaître, mais on sait qu'il y en a quelques-uns à l'intérieur qui sont très très dangereux et qui vont finalement tuer le patient. Et donc en fait, nous, on développe des techniques un peu innovantes dans notre laboratoire, qui est de les colorer, en fait, si vous le comprenez comme cela. Ce qui fait qu'en fait, on est maintenant capable de reconnaître quels sont les Stormtroopers rouges, bleus, roses, verts, etc., etc. Et ça nous permet d'étudier leur comportement et très vite de détecter et de purifier, en fait, d'isoler celles qui sont vraiment capables de résister au traitement, afin de mieux les caractériser de façon, cette fois-ci, très, très, très précise. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce qui nous intéresse, c'est de décortiquer cette complexité, en fait, des cancers, afin d'essayer de trouver une manière beaucoup plus précise de cibler les cellules les plus importantes à cibler, qui sont les cellules les plus résistantes au traitement, et bien sûr, on espère, de sauver nos patients. Voilà, c'est un petit peu long, je suis désolé, mais ça résume à peu près ce qu'on fait au laboratoire.
Et vos recherches vous emmènent dans d'autres états et territoires de l'Australie ?
Oui, donc on a beaucoup de collaborations. C'est vraiment une entreprise qu'on ne peut pas mettre en place si on n'est pas collaboratif. Donc j'ai des collaborateurs au sein du centre, mais j'ai des collaborateurs dans différents états de l'Australie, notamment beaucoup à Brisbane et à Adélaïde également, ainsi qu'internationalement, bien sûr, puisque je pense que la recherche biomédicale et autres est vraiment un effort qui est un effort international. Et on parlera peut-être dans quelques minutes dans ce contexte-là des collaborations qu'on a encore en France, bien évidemment, puisque c'est une recherche qui est chère à mon cœur.
Et donc une collaboration avec le Centre de cancérologie de Lyon ?
Voilà, exactement. Donc en fait, le Centre de cancérologie de Lyon, qui est un des centres les plus réputés en France, est un centre avec lequel nous collaborons beaucoup, et en particulier, j'ai la chance de collaborer en fait avec le directeur de ce centre, qui est le professeur Alain Puisieux à Lyon. Et Alain et moi avons donc eu la chance d'obtenir, il y a à peu près un an maintenant, un label donc de l'INSERM, qui est un label de laboratoire international associé. Donc Alain et moi-même sont les co-directeur de ce laboratoire, qui est un espèce de laboratoire sans mur, un laboratoire virtuel international, et donc qui nous permet en fait au sein de cette structure d'échanger des chercheurs, d'échanger des étudiants, de faire des demandes évidemment de financement pour soutenir notre recherche ensemble, et évidemment de publier les résultats de notre recherche, et on espère d'avancer vraiment encore une fois pour trouver des traitements pour soigner nos patients. Donc c'est vraiment une initiative de l'INSERM qui est une initiative importante, et je pense qu'on est assez content du fait que ce soit la première fois en fait que l'INSERM investit en Australie. Donc c'est le signe, on espère qu'on est capable de faire des choses qui les intéressent. Et c'est un laboratoire qui est collabellisé par le CNRS également.
Donc on peut dire que cette coopération de recherche médicale entre la France et l'Australie se porte très bien depuis quelques années.
Oui, c'est une collaboration qui est vraiment très très forte en fait. Et la manière dont on peut-être l'améliorer encore, je pense, c'est de la structurer un petit peu plus. Elle est vraiment très vivante, et elle est vivante surtout par des initiatives multiples en fait de chercheurs individuels qui ont, pour différentes raisons, j'en suis un exemple, mais des gens qui viennent faire un post-doc en Australie ou un post-doc en France, qui gardent des très bons contacts, des choses comme ça. Donc elle est vivante de ce côté-là, avec des initiatives très très fortes dans beaucoup de domaines. Hein. Sciences biomédicales est vraiment un exemple, mais il y a bien sûr beaucoup d'autres, l'environnement, l'intelligence artificielle, etc. Donc ce qui manque vraiment, entre guillemets, ce qui peut être amélioré, je devrais dire plutôt, c'est vraiment un effort de structuration. Et il y a des initiatives au niveau politique déjà, hein, puisqu'avec la visite du président français il y a quelques mois, on a eu des accords préalables qui ont été signés. Il y a encore des visites là qui se préparent du ministre des Affaires étrangères, une visite du ministre de la Recherche pour le premier trimestre de l'année prochaine, vraisemblablement, peut-être on espère du ministre de la Santé aussi, donc pour essayer de signer des accords de coopération encore plus structurés. Et là, peut-être la chose que je devrais ajouter aussi, et que je voudrais ajouter, c'est vraiment qu'il y a sur place en Australie une communauté importante qui s'est regroupée sous une bannière qu'on appelle AFRAN, donc une association en fait de soutien de la collaboration en sciences et technologies entre la France et l'Australie. Et cette association AFRAN, dont j'ai la chance de faire partie du comité exécutif, est vraiment là pour essayer justement de promouvoir ces échanges, de les structurer, de donner des moyens financiers qui ne sont pas toujours très importants, parce qu'on aimerait toujours avoir plus de choses à donner, mais on fait avec les moyens du bord, et avec le grand soutien de l'ambassade, de donner des moyens à des initiatives de se développer pour essayer justement de structurer cette collaboration, qui est vraiment très excitante. On est dans une période très excitante de la recherche, je pense.
Et le soutien du gouvernement fédéral, du Victoria, on imagine aussi?
Alors, le soutien du gouvernement fédéral, on aimerait qu'il soit un petit peu plus poussé. Malheureusement, on n'arrive pas encore à peut-être au niveau de l'association à mobiliser cet aspect-là des choses, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. Le gouvernement de Victoria, c'est un petit peu similaire. Je pense qu'il est, il est difficile pour eux de soutenir tous les projets, bien évidemment. Et donc, en fait, on est en train d'essayer de monter des gros projets d'association entre des grosses structures telles que, en ce qui me concerne plus particulièrement, l'Université de Melbourne et l'Université de Lyon, par exemple, qui utilise le levier, quelque part, du laboratoire international associé pour donner deux grosses structures qui font des accords. Et quand des grosses structures comme ça s'associent, c'est évidemment très visible. Et donc, à ce moment-là, les gouvernements tendent à regarder ça un petit peu plus en détail.
Cette question, quel regard sur l'Australie, elle se situe où dans le monde de la recherche en cancérologie?
Alors, en recherche en cancérologie et en recherche biomédicale, je pense, dans beaucoup de domaines, l'Australie est vraiment au premier plan mondial. Hein. Je pense qu'il y a des laboratoires et des structures qui sont vraiment de top niveau. Il y a vraiment rien à dire là-dessus et tout à fait comparable à ce qu'on peut trouver en France. La structuration de cette recherche est un petit peu différente de ce qu'on trouve en France, ce qui leur donne à la fois un peu moins d'envergure, mais à la fois un peu plus de force d'impact sur des choses très précises. La cancérologie en est un exemple et clairement le bâtiment, par exemple, encore une fois, dans lequel je travaille, qui est ce Comprehensive Cancer Center, en est une image vraiment frappante. Le gouvernement du Victoria a mis des centaines de millions de dollars, le gouvernement fédéral a mis des centaines de millions de dollars pour construire une structure qui donne une force d'impact très très forte à la recherche en cancérologie dans le Victoria et dans toute l'Australie. Et c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Il y a des structures aussi très très importantes à Adélaïde avec le SAMRI, au Garvan Institute à Sydney, au QIMA à Brisbane. Donc il y a pas mal de structures comme ça, en cancérologie ou de façon plus globale dans plusieurs domaines génomiques notamment, qui sont vraiment des structures de classe mondiale sans aucun doute.
Professeur Frédéric Hollande, merci à vous.
Merci beaucoup pour votre invitation.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.